pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, une malterie qui ne fournit plus à la demande.
Ce que nous, on cherche à faire, c'est élever le standard du malt au Québec. Nous, on veut être le gold standard nord-américain.
Rencontre avec Raphaël Sans Regret, le cofondateur d'InnoMalt. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins Français Généreux, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Davos, en Suisse, ces jours-ci, et font face à d'importants problèmes économiques.
L'inflation élevée, une crise énergétique, une crise alimentaire et finalement une crise environnementale.
Je m'appelle Laurent Thérien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Le marché québécois de la bière explose. Il n'y a pas loin de 300 microbrasseries au Québec, c'est plus du double qu'il y a 5 ans. Mais dans la chaîne de valeur de la bière, il y a une étape préalable dont on parle très rarement, celle de la production du malt. Pour rendre les choses simples, dites-vous qu'il y a trois grandes étapes pour faire une bière. Ça prend un, des céréales. Ces céréales-là, deux, sont fermentées, ça va devenir du malt. Et ensuite, ce malt-là, ben, les microbrasseries vont l'acheter pour trois, brasser leur bière. Le malt, c'est donc un ingrédient essentiel et c'est la spécialité d'InnoMalt, une malterie en pleine croissance basée à Sherbrooke. L'entreprise vient d'ailleurs tout juste d'annoncer qu'elle va produire 16 fois plus de malt dès l'année prochaine avec la construction de nouvelles usines à Bécancour. Incursion cette semaine dans l'industrie québécoise du malt avec Raphaël Sans Regret, le cofondateur d'InnoMalt. Bonjour Raphaël, bienvenue pour votre info.
Bonjour.
Raphaël, vous allez bâtir une nouvelle malterie dans le parc industriel de Bécancour. C'est un investissement d'à peu près 45 millions de dollars. Est-ce que c'est parce que vos installations actuelles, celles qui sont à Sherbrooke, étaient juste trop petites, fournissaient plus pour la demande?
Effectivement, ça fait au moins deux à trois ans là, que les installations de Sherbrooke ne suffisent pas à la demande. Puis nos projections ou nos lettres d'intention d'achat faisait qu'on pouvait pas faire un demi-projet. Là. Aurait fallu recommencer tout de suite, retourner en construction dès la fin des travaux. Donc, vraiment, nos produits sont en très forte demande.
Bon, bien, on va aller là justement dans vos produits puis dans le marché de la bière de manière générale parce que je pense que le marché connaît des années assez exceptionnelles. Il y a 300 microbrasseries en ce moment au Québec. Vous êtes l'un des premiers maillons de la chaîne, si tu me permets l'expression. Vous fournissez le malt qui permet de concevoir, en fait, les bières. Est-ce qu'on est autosuffisant au Québec en malt? Est-ce qu'on en produit suffisamment?
Écoute, la question est à plusieurs volets. Ça dépend quel produit. Donc, il y a certaines gammes de produits qui sont simplement pas offertes actuellement, même avec l'arrivée de notre nouvelle usine. Souvent dans les maltes plus spécialisés qu'on utilise en plus faible quantité. On a de la capacité de production au Québec, mais on va produire au Québec des produits qui sont pas nécessairement adaptés aux microbrasseries. Donc, nous, on fait vraiment des produits qui sont des produits fonctionnels, qui sont faits pour la microbrasserie. Donc, oui et non, en réalité. Mm-hmm. Mais pour une microbrasserie, ça va être beaucoup moins difficile un coup qu'on va être là, s'approvisionner au Québec, effectivement.
Bon, puis là, on va parler de certaines de vos partenaires, là, de certaines bières qui sont brassées avec le malt qui est transformé chez vous. Je pense à Pit Caribou, à la bière Hochelag, à Lagabière. À Ciboire aussi, Avenue Laurier à Montréal, qui s'approvisionne chez vous. Je disais que le premier maillon, c'est le malt, mais c'est pas tout à fait vrai. Le premier maillon, c'est l'orge. Est-ce que ça, de l'orge, on en produit suffisamment au Québec?
On en produit. Il y a deux types d'orge, là, essentiellement. Il y a ce qu'on appelle de l'orge de Provence, puis de l'orge de brasserie. Donc, dans ces deux catégories-là, nous, on utilise seulement que l'orge de brasserie. L'orge de brasserie s'en produit. On a eu de belles années dans l'orge de brasserie. Là, c'est un petit peu plus difficile. La situation géopolitique actuelle fait que c'est un peu plus compliqué. Mais on a quand même un travail à faire. On avait besoin au Québec pour être capable de structurer cette filière-là d'un joueur un peu champion qui a les moyens un peu de ses ambitions. Innomad va pouvoir servir de structures pour favoriser cette culture-là au Québec. Ouais.
Pour un brasseur, prenons l'exemple de Schlag pour celui-là ou de Pit Caribou, au-delà du fait de se dire « je m'approvisionne au Québec, puis c'est le fun, j'encourage une business d'ici », est-ce qu'il y a d'autres avantages à utiliser un malt qui a été transformé localement?
Bien, écoute, c'est sûr que dans les frais de transport, par exemple, avec le prix du carburant qui est à la hausse, on est gagnant à ce niveau-là. Il y a un enjeu marketing pour les brasseries, mais la plupart des gens qui travaillent avec nous travaillent pour la qualité du produit.
Ouais.
Donc, ce que nous, on cherche à faire, c'est élever le standard du malt au Québec, faire le meilleur produit possible. Nous, on veut être le gold standard nord-américain. Donc, on veut que nos malts deviennent un gage de qualité. C'est vraiment la qualité du produit sur lequel on focus. Puis c'est comme ça qu'on a designé notre usine, pas pour être efficace économiquement, mais pour faire une belle qualité de produit. Mm-hmm. C'est vraiment ça l'objectif.
OK. Je voyais les retombées à la suite de l'annonce de votre investissement puis de cette nouvelle usine-là. J'en comprends que dans l'industrie, c'est aussi vu de manière très positive, au-delà de l'industrie de la bière, là, dans l'agriculture de manière générale. En quoi est-ce que ça peut être bénéfique à d'autres secteurs agroalimentaires de voir que vous investissez comme ça?
J'ai pas fait les analyses pour les autres secteurs agroalimentaires, mais c'est sûr que une usine comme Inomalt, c'est une usine de transformation, pas nécessairement primaire, là, c'est une usine dans la chaîne qui est à la base. Donc, il y a énormément de retombées économiques au niveau du transport, au niveau des sous-traitants, au niveau de l'entretien des machines, etc. Donc, il y a plein de compagnies qui vont bénéficier de notre présence autour. Puis la vraie création de richesse, elle est dans la transformation de nos matières premières plutôt que d'exporter nos matières premières. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de retombées à ce niveau-là. Mais Inomalt, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on compétitionne pas nécessairement des produits qui sont nord-américains, mais des produits européens. Donc, le gros avantage, c'est qu'on va limiter les importations. C'est là. Donc, on va utiliser l'argent ici pour faire des produits ici, pour les vendre ici. Donc, c'est l'argent qui va faire rouler notre économie ici.
J'imagine que vous n'avez pas choisi, Raphaël, la région de Bécancour puis la zone industrielle de Bécancour par hasard. Cela dit, ça vous sort de la région natale qui est Sherbrooke. Pourquoi Bécancour? Pourquoi c'était l'emplacement le plus stratégique pour vous?
C'est un travail de longue haleine de choisir un terrain, en fait, pour une usine de ce genre-là, parce qu'on a besoin de plusieurs éléments particuliers pour être capable d'avoir une vision à long terme. On a besoin de certaines infrastructures municipales. On a besoin, entre autres, d'un chemin de fer à proximité. Puis, on a besoin d'être relativement central quant à notre approvisionnement, mais aussi à l'expédition des produits finis. Donc, Bécancour était pas mal au centre du Québec. Donc, la production d'orge est essentiellement faite dans des régions périphériques, donc pas nécessairement la vallée du Saint-Laurent. Donc, on peut se rapprocher de l'Estrie, on peut se rapprocher du Bas-Saint-Laurent, on peut se rapprocher de Lac-Saint-Jean ou du Témiscamingue, mais si on s'en va directement dans une de ces régions-là, on ne sera pas nécessairement proche des autres. Donc, il fallait qu'on soit au centre. Ça prenait du gaz naturel, de l'eau, une qualité de l'air qui est relativement bonne. Puis là où on est situé dans le parc, on est à contresens des vents. Donc, la qualité d'air est excellente. Donc, on avait notre eau, notre chemin de fer, notre gaz naturel, puis notre qualité d'air. Donc, tout était à cet endroit-là. Moi, ça a pris 2 ans avant de choisir un site.
Ah oui? Quelles étaient les autres options, si tu me permets? Qu'est-ce qui aurait pu fonctionner sinon?
Ben, écoute, je veux pas mettre les municipalités en compétition les uns aux autres, là, parce qu'on a travaillé avec plusieurs municipalités, mais on a regardé des régions comme Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe. En Estrie, on a regardé effectivement Sherbrooke qui avait pas les installations, mais on a eu des discussions avec Richemont, par exemple, qui à l'époque avait pas le gaz naturel. C'est plus vrai maintenant, mais à l'époque, il l'avait pas. Donc, on a regardé plusieurs. En fait, on a suivi les chemins de fer. On a regardé où est-ce qu'on pourrait potentiellement s'installer, puis quelles infrastructures étaient présentes. Puis les municipalités qui étaient le plus prometteuses, on s'est assis avec elles, mais...
Oui, c'est un projet de longue haleine. Puis on s'entend, un investissement de 45 millions, tu le fais une fois, tu peux t'assurer que ce soit bien fait, là. Donc on comprend que c'est une décision qui prend du temps à être réfléchie. Discussion sur le malt, Raphaël, parce qu'on n'en parle jamais du malt, là. On parle de, tu sais, je veux dire, en matière de compréhension du commun des mortels comme moi, de la bière, bien, on sait qu'au départ, il y a des céréales, puis on sait qu'à un certain point, il y a des brasseurs un peu tripeux qui sont en train de concocter de nouvelles bières puis d'imaginer de nouvelles recettes. Mais entre les deux, On oublie, j'ai l'impression, l'étape de la transformation. Toi, tu n'étais pas destiné à faire ça au départ. Pourquoi le malt?
Écoute, moi, mon partner, initialement, on était deux passionnés de whisky, puis on était dans un club de whisky à l'Université de Sherbrooke pendant nos études doctorales. Fait que c'est vraiment un endroit où on se permettait, par exemple, d'acheter des bouteilles qui sont beaucoup plus chères, qu'on partageait pour déguster. Éventuellement, on s'est dit qu'on allait partir de notre propre distillerie, puis on n'avait pas la matière première de qualité qu'on voulait pour pouvoir le faire. Donc, on s'est dit, dans ce projet-là, on va commencer par faire une malterie pour faire notre produit de base. Par la suite, on fera éventuellement de la distillation. L'environnement fiscal pour la distillation est vraiment pas optimal. C'est extrêmement difficile de faire de l'argent dans ce domaine-là pour plein de raisons. Surtout au niveau de taxation fédérale puis au provincial sur les taxes d'assises, etc. Donc, nous, on a décidé de focusser sur le maltage parce que, essentiellement, à la base, c'était plus là. Moi, j'ai un doctorat en biologie moléculaire des plantes. Puis Pascal faisait ses études doctorales en métabolisme des sucres. Donc, on avait l'expertise qui était beaucoup plus collée au processus de maltage qu'il l'était au processus de distillation. Puis, avec le temps, on s'est mis à triper sur ce processus-là, puis on a réalisé qu'on était bon là-dedans aussi.
Est-ce que, Raphaël, la passion pour l'entrepreneuriat est venue après la passion pour le processus et le produit, donc?
Je pense pas. Je pense pas parce que l'entrepreneuriat, c'est comme... c'est pas quelque chose auquel nécessairement, moi, Pascal, on pensait initialement. On a suivi des formations à l'université, etc. Mais ça a jamais été. On s'est jamais dit on va se lancer en affaires. Ouais. Moi, mon père est à son compte. Dans la famille, du côté de ma mère, tout le monde est à son compte. C'est comme normal pour nous autres de faire ça quand tu n'es pas capable de trouver autre chose. Puis à l'époque où je faisais mes études doctorales, c'est l'époque où. Stephen Harper avait fait énormément de coupures au niveau de la recherche fondamentale, puis avait fait un environnement un peu encarqué là, au fédéral. Donc, il y avait beaucoup d'emplois dans mon domaine. Puis, du jour au lendemain, il n'y en avait plus du tout. Il fallait que je fasse quelque chose. Puis, si je voulais me trouver un job, il fallait que je m'expatrie à l'Île-du-Prince-Édouard ou en Saskatchewan ou en Alberta, par exemple. Parce que on s'entend, le gros de la recherche dans mon domaine s'est fait dans ces secteurs-là. Puis déménager la petite famille dans une autre province, c'était peut-être pas quelque chose qui était intéressant pour nous. Fait que l'entrepreneuriat venait régler, en fait, entre guillemets, cet enjeu-là. Donc, c'était juste un mal nécessaire.
Mmh. Mais c'est intéressant que tu aies un background aussi de chercheur parce que, je veux dire, vous misez sur l'innovation, vous en faites de l'innovation, c'est pas pour rien que c'est dans votre nom, là. Dis-moi comment tes recherches ou ton background de scientifique t'aide à faire de meilleurs produits?
Écoute, c'est la rigueur. La rigueur, la discipline, puis l'espèce de processus de réflexion en arrière qui amène les études doctorales qui te permet de travailler sur ton procédé avec... éviter de travailler à l'aveugle puis faire de l'essai-erreur. Ouais. On est capable de se structurer facilement pour avoir un objectif puis planifier une expérimentation qui nous permet d'arriver à un résultat plus rapidement que quelqu'un d'autre, puis d'être capable de très, très rapidement identifier ben sont où mes gates puis mes bottlenecks qui fait que j'ai besoin, par exemple, d'outils d'analyse supplémentaires ou de processus supplémentaires pour s'assurer d'être capable d'arriver à un résultat qui est intéressant.
Ça va peut-être t'apparaître un peu niaiseux comme question, mais la bière, j'ai l'impression que c'est un procédé qui est à peu près vieux comme le monde, là. En quoi est-ce qu'il y a encore de la place pour de l'innovation dans ton secteur?
Écoute, on est dans une industrie qui est particulièrement peu encline à l'innovation, une industrie qui est très, très conservatrice.
Ben oui.
Particulièrement au niveau du maltage. Il n'y a pas grand-chose qui avait bougé dans les dernières années. Les systèmes ne changeaient pas beaucoup. Les technologies ne changeaient pas beaucoup. Énormément de recherche à l'interne qui n'est donc pas accessible publiquement. Il fallait donc faire, nous, notre bout de travail pour être capable d'arriver à obtenir cette information-là. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Dans l'industrie, par exemple, au niveau du matage, si on rencontre un problème avec un approvisionnement dans un territoire en particulier, on va juste changer de territoire. On ne se posera pas la question pourquoi, comment, puis on ne réglera pas le problème. On va juste se déplacer. Donc, c'est un peu ça qui s'était fait au Québec. Puis c'est ce qui fait qu'on ne consomme pas autant d'orge de brasserie qu'on pourrait consommer ici. L'industrie s'approvisionne juste ailleurs parce que c'est plus simple. Donc,
Ouais. Tu le disais d'entrée de jeu, les conflits géopolitiques ont une incidence sur votre industrie. L'Ukraine est, on l'a dit depuis les dernières semaines, là, le garde-manger de l'Europe et à un certain point même du reste du monde. Est-ce que tu y vois, ça va te paraître un peu bizarre, des opportunités pour ta business?
Oui et non. Nous, les opportunités, ils étaient déjà présentes. C'est sûr que subitement, quand on parle d'autonomie alimentaire, il faut qu'on ait une bonne réflexion dans l'industrie générale, je te dirais, agroalimentaire, comment qu'on peut faire pour être plus résilient face aux aléas internationaux. Cette question-là, en tant que société, je pense qu'il faut qu'on s'en pose, qu'on pose des gestes maintenant pour que dans 10-15 ans, on soit plus dépendant des importations. Ça c'est quelque chose qui est très important. Plus loin que ça, c'est sûr que dans certains rapports, certaines analyses, l'Ukraine produit bon an mal an, là, 5% de l'orge de brasserie de la planète. C'est énorme. Puis actuellement, bon, il y a certains analystes qui pensent que l'Europe, au courant de la prochaine ou des 2 prochaines années, va devoir faire du protectionnisme avec son orge de brasserie. Donc, s'assurer que l'orge de brasserie permet de suffire à la demande intérieure. Si effectivement, ça serait le cas, demain matin, le Canada devra, qui est aussi un exportateur net, pallier au problème d'approvisionnement des autres pays. Il va falloir qu'on suffise à la demande. Si on fait ça, ben, il va falloir qu'il y ait quelqu'un en quelque part qui remplace les produits d'importation. Donc oui, c'est une opportunité. Mais je vous dirais là, qu'à très court terme, l'opportunité, elle est principalement pour les agriculteurs qui, oui, voient leur coût de production augmenter, mais ils voient aussi le prix de vente exploser. Une tonne l'an prochain d'orge va se vendre pratiquement 2 fois le prix de la tonne qu'on a acheté l'an passé.
C'est ce qu'on a vu aussi avec le marché du nickel dans un tout autre domaine, là, mais il s'est passé à peu près les mêmes choses. Écoute, dernière question pour toi. Puisque le marché est manifestement intéressant puis qu'il y a ces doutes-là de protectionnisme, est-ce que tu l'envisages de grossir plus vite que tu l'avais envisagé?
On a dans nos plans des structures qui nous permettent de doubler, voire tripler la capacité de production à l'usine de Bécancour. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on se voit bâtir des usines ailleurs en Amérique du Nord, par exemple en Ontario? C'est effectivement des choses à laquelle on a réfléchi. Par contre, je vous dirais qu'on n'est pas rendu là. On va commencer par finir de construire l'usine actuelle, faire le démarrage, puis surtout structurer notre chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que on soit capable de desservir notre clientèle au Québec, là. Parce qu'avant d'augmenter ou d'aller servir le reste de l'Amérique du Nord, l'Ontario, par exemple, ou le Vermont, on veut s'assurer que les brasseurs qui en veulent au Québec aient accès aux produits, là.
Raphaël, ça a été super intéressant. Moi, c'était une industrie que je connaissais absolument pas. J'ai appris plein de choses et évidemment, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci d'avoir été avec nous cette semaine.
Merci beaucoup.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux.
Bonjour, Francis.
Bonjour.
Les grandes élites économiques et politiques sont réunies ces jours-ci à Davos pour le World Economic Forum. C'est toujours très suivi parce que c'est un rendez-vous traditionnel où on parle effectivement d'économie et on parle de politique. Cette année, le contexte, dis-moi si ma lecture est la bonne, est vraiment particulier parce que les crises économiques, on dirait, se succèdent les unes après les autres. Est-ce que tu as l'impression que les dirigeants qui arrivent à Davos ont des problèmes économiques à régler qui sont plus importants que ceux qui ont déjà vécu par d'autres éditions passées?
Bien, du moins des problèmes différents. Il y a eu d'autres crises dans le passé. Je suppose que ceux qui étaient à Davos en 2008-2009 devaient être particulièrement inquiets et c'est arrivé aussi dans d'autres circonstances. Cette fois-ci, c'est vraiment par contre des crises différentes. Des crises, comme eux-mêmes ont appelé, un des officiels présents a appelé des crises imbriquées. Puis c'est particulièrement ça qui est intéressant, qui touche beaucoup l'inflation. Donc, quatre crises que je vais nommer vite, mais qu'on repassera par la suite. L'inflation élevée, une crise énergétique, une crise alimentaire aussi, et finalement une crise de point de vue environnemental. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait quand même des grosses discussions autour de la table en Suisse présentement.
Absolument. OK, bien effectivement, c'est une bonne idée de les prendre une à une. Commençons alors avec l'inflation. C'est un problème qui est généralisé là, partout dans le monde en ce moment.
Presque partout. C'est un problème qui est... qu'est-ce qui est différent, c'est qu'on ne le voyait pas jusqu'à tout récemment, jusqu'à voilà, peut-être un an. On vient de passer deux cycles économiques à peu près sans inflation. Et là, tout d'un coup, c'est le sujet de l'heure, avec des taux d'inflation. Puis je répète quelques chiffres parce que c'est quand même assez impressionnant. On est à 9 % au Royaume-Uni, 8,3 % aux États-Unis, 7,5 % en zone euro, 6,8 % au Canada. Où est-ce que je disais presque partout, c'est que par contre, en Asie, ça reste quand même un peu plus modéré. On est à 2,5 au Japon, 2,2 en Chine. Mais encore là, avec des chiffres qui s'accélèrent là aussi, mais à partir de niveaux plutôt bas. Mm-hmm. Mais oui, un problème généralisé, un problème qu'on a parlé beaucoup des problèmes d'offres et de contraintes d'approvisionnement, des problèmes empirés avec la crise, avec la guerre en Ukraine, avec la crise de la COVID qui se poursuit en Chine. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est encore très présent dans cette situation-là.
Ouais.
Avec deux sources qui sont deux des autres crises qui ont été nommées à Davos, d'ailleurs. Là.
Ben, ce que j'allais dire, c'est que tu parlais de l'inflation galopante, surtout en Occident. J'ai l'impression que le conflit ukrainien vient soutenir ça, notamment en raison des prix de l'énergie. Là, c'est la deuxième crise dont tu parlais.
Oui, tout à fait. Donc, les prix d'énergie considérablement en hausse. Si je prends les chiffres de l'OCDE pour le mois de mars, puisque c'est la dernière fois qu'on a eu des chiffres comme regroupés pour toute l'OCDE, donc les plus grosses économies de la planète, on est à 33,5 de hausse des prix de l'énergie depuis un an. C'est quand même considérable, puis ça a empiré encore parce que les prix du pétrole sont maintenant plus élevés qu'il y était au mois de mars, et aussi mais avec des prix de l'essence qui, eux, ont encore plus augmenté.
Mm-hmm. Ce qui nous amène à la troisième, c'est la précarité alimentaire. Donc, si les gens se retrouvent avec des prix plus élevés, si le prix des aliments augmente, bien, on se retrouve avec une troisième crise sous les bras, c'est que c'est de plus en plus difficile de se nourrir.
Oui, tout à fait. On sait que c'est vital. C'est aussi vital plus pour les populations au sein des pays en émergence puis des pays en développement. Aussi dans les populations moins aisées des pays riches aussi. C'est quand même... Puis là encore, on voit beaucoup l'effet de l'Ukraine puis de la Russie dans cette situation-là. Des prix de 10 %, une inflation de 10 % du prix des aliments en mars par rapport à l'année précédente. Mais si on regarde depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, les prix du blé ont monté de 32 %, les prix du maïs de 15 %. Donc, ça se poursuit là, depuis le mois de mars. Et donc, c'est quand même des effets... C'est quelque chose de... Étant donné que c'est si vital et que ça peut faire très mal à une population, mais là, c'est quelque chose qu'on garde beaucoup et qu'on espère qu'on va pouvoir alléger là, au courant des prochains mois, prochains trimestres.
Et ce qui est intéressant, Francis, c'est que le chancelier allemand disait cette semaine, on ne pourra pas résoudre aucun de ces problèmes-là si on se concentre sur une seule de ces crises. On doit les régler comme un tout. Et puis la dernière, qui est peut-être la plus compliquée à régler, c'est celle du climat.
Oui, tout à fait, parce que c'est celle qu'on subit peut-être le plus. La guerre en Ukraine aurait pu être évitable, même si dans la tête de Vladimir Poutine, ce n'était pas le cas.
Ouais.
Mais du point de vue de la crise énergétique, on sait que ça arrive, on sait qu'on est déjà dedans. Et là, je l'imbrique, comme on disait au début, avec l'inflation aussi, où ce que la crise énergétique génère aussi de l'inflation, qu'est-ce qu'on appelle la greenflation, qui, d'un côté, on a l'effet de désastre météorologique, on parle de sécheresse, inondation, d'une partie de la hausse des prix des aliments qu'on a connue même avant la guerre en Ukraine, mais provient de sécheresse. sécheresse qu'on a eu dans l'Ouest canadien, qu'on a eu dans d'autres régions du monde aussi, de chaleur, de froid extrême, on a eu des problèmes d'inflation ou même des problèmes industriels causés par le froid extrême au Texas il y a à peu près un an. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup présentement. Puis en plus, il y a les pressions qu'on va observer sur soit les biens plus verts ou soit les matériaux nécessaires pour faire des véhicules électriques, pour faire des éoliennes, pour faire d'autres, pour partager l'énergie. Et tout ça, bien, c'est quelque chose qui, à cause de changement de demande, à cause d'une offre qui reste restreinte, risque de compliquer encore plus la tâche du côté de l'inflation. Mm-hmm. On va avoir besoin de changements du côté de l'énergie. Les changements climatiques amènent des problèmes alimentaires. Donc, je répète, c'est vraiment des crises très, très imbriquées, tout aussi importantes l'une que l'autre.
Mm-hmm. Francis, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette saison. Au plaisir de se retrouver très bientôt.
Ça a vraiment été un plaisir tout au long de la saison.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Imaginez donc qu'il ne nous reste qu'un seul épisode à diffuser cette saison. Il va être diffusé la semaine prochaine. Ce sera le 36e de cette saison-ci et le 60e déjà de notre courte histoire. Alors, on se retrouve pour une dernière fois cette saison jeudi prochain. Et d'ici là, passez une très belle semaine.